Merci beaucoup pour l'invitation. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est essentiellement vous présenter du travail en cours au ministère. C'est le 20e de l'ALENA, le 25e de l'accord bilatéral. Et on est en train d'organiser avec nos collègues américains et mexicains une conférence de nature relativement technique plus tard cette année, où on va faire essentiellement l'évaluation des deux accords, mais de manière plutôt quantitative, comme vous allez voir. Donc, je vais me restreindre essentiellement à la dimension économique. Okay? Ce que j'aimerais faire, c'est avec vous quatre choses. Regardez comment la théorie économique a évolué au cours des 20 à 30 dernières années. Parce qu'au moment où on a signé ces accords de libre-échange-là, la théorie économique était loin d'être aussi avancée et aussi granulaire qu'elle l'est aujourd'hui. Les données disponibles étaient également très restreintes. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des lentilles d'analyse qui sont beaucoup plus granulaires. Donc, on peut faire de la recherche au niveau des firmes. Et donc, on a des données, des bases de données qui contiennent des millions et des millions d'observations qui nous permettent de faire un travail analytique qui est très microscopique, si on veut. Donc, c'est ces grilles d'analyse-là que je vais vous présenter et qu'on va utiliser par la suite pour regarder et analyser, là, expose quels ont été les impacts de l'année. Par la suite, on va regarder les grandes tendances du commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique pour voir si, effectivement, on ne voit pas des changements structurels dans les années qui ont suivi l'implantation des deux accords. Par la suite, on va voir quelles sont les sources de gains économiques, quelles sont les différentes dimensions des gains économiques associés à la libéralisation des échanges. Et par la suite, on va parler essentiellement qu'est-ce qu'on peut envisager au cours des prochaines années en termes d'intégration économique et quels sont les grands enjeux auxquels on fait face. Okay, en Amérique du Nord et au niveau du commerce international. Donc, l'évolution de la théorie du commerce international. OK. Ça a commencé il y a très longtemps, avec Ricardo, essentiellement le Portugal, l'Angleterre, le vin, le textile, etc. Donc, à l'époque, par la suite, ça a été un peu poussé par Ekscher Ouling, mais à l'époque, essentiellement, on parlait de différences en termes de dotation des facteurs. Bon, le Canada est riche en ressources naturelles, etc. On parlait de différences en termes de technologie. OK? Mais la concurrence, on veut, la compétition se faisait plus entre les pays. L'analyse se faisait au niveau des pays. Donc, on parlait de commerce comme étant une avenue pour augmenter le bien-être pour des pays qui sont différents. Okay? Par la suite, avec l'arrivée de Krugman dans les années 70-80, là, on parlait de plus en plus d'économie d'échelle. Donc, la possibilité, lorsqu'on a accès à un plus gros marché, de bénéficier d'économie d'échelle et de pouvoir réaliser des gains d'efficience de cette façon-là. On parlait des coûts de commerce, on parlait de l'accès à une plus grande variété de biens. Okay? Donc, une nouvelle étape dans la conception théorique du commerce international. Dans les années 80-90, avec Melitz, Stratford, là, on parlait de l'hétérogénéité des firmes. Donc, les firmes sont différentes. Au début, les pays sont différents. Par la suite, les industries, les avantages comparatifs se situent au niveau des industries. Là, il est rendu que les avantages comparatifs se situent au niveau des firmes. Okay? Donc, c'est encore là, c'est une analyse qui est beaucoup plus granulaire. Et finalement, au cours des 10-15 dernières années, avec des gens comme Fenstra, Einstein, Grossman, Rosie Hansberg. Là, on parle du commerce des tâches, trade and task, comme on dit en anglais. Là, l'avantage comparatif s'analyse à l'intérieur de la firme. Donc, c'est plus des pays, c'est plus des industries, c'est plus des firmes. Les décisions au niveau de l'allocation des ressources se font à l'intérieur des firmes. Donc, on va faire de l'outsourcing, on va acheter à l'étranger, on va céder certaines parcelles de notre chaîne de production à des fournisseurs étrangers, etc. Donc, là, on est rendu, là, on travaille au microscope, OK, au niveau du commerce international. Okay? Donc, c'est un peu cette grille d'analyse-là que je vais vouloir utiliser. J'aimerais prendre avec vous des outils d'analyse, OK, qu'on a aujourd'hui, la grille d'analyse puis les instruments économiques qu'on a aujourd'hui pour analyser l'impact et de l'accord Canada-États-Unis et de l'ALENA, mais avec une, si on veut, avec un recul de 25 ans. OK? Donc, une perspective empirique à long terme, OK? Avec des instruments d'analyse modernes. OK? Donc, à l'origine, comme on le mentionnait, bon, la théorie traditionnelle du commerce international mettait l'accent sur l'avantage comparatif, mais au niveau plutôt agrégé. On parlait de l'importance de la spécialisation, de la dotation en facteurs. Donc, c'était assez macro comme approche. Okay? La nouvelle théorie du commerce international, elle, parlait de possibilités. Puis moi, la façon dont j'avais présenté, c'est que dans le cadre de la théorie traditionnelle du commerce international, les avantages comparatifs étaient donnés, c'était fixé. Ça dépendait de la dotation en facteurs. Donc, c'était assez simpliste comme approche. Avec Krugman, le développement, l'importance des coûts de commerce, des coûts de commerce, la possibilité des économies d'échelle, de spécialisation, etc. Là, on s'est rendu compte que, oups, les avantages comparatifs au niveau, peuvent se faire au niveau des industries, beaucoup plus qu'au niveau des pays. Okay? Puis là, à partir de ce moment-là, puis je me souviens, parce que dans ma tête, à l'époque, je faisais ma tête de doctorat au début des années 80, puis je me disais, oui, mais ces avantages comparatifs-là ne sont pas donnés, ne sont pas figés dans le temps, ils sont souvent influencés par les politiques. Et effectivement, aujourd'hui, on parle en termes de théorie traditionnelle, le Canada a un avantage comparatif dans les ressources naturelles. OK. Un peu simpliste. OK. Mais le Canada a aussi un avantage comparatif au niveau de l'aéronautique. Ah, ça, c'est pas une question de dotation de facteurs. Ça, c'était un avantage comparatif qui a été shapé, si vous me permettez l'expression, par les politiques publiques. OK. Donc, on pousse davantage. Donc, à ce moment-là, on peut avoir du commerce entre des pays qui sont très similaires, Canada, États-Unis. Okay. Par la suite, donc on parle essentiellement de rendement à l'échelle, on parle d'un accroissement de la variété. Okay. Si on pousse encore plus loin, puis là on regarde avec la nouvelle New Trade Theory, comme on l'appelle, là on parle au niveau des firmes. Là, ce ne sont plus les industries, ce ne sont plus les pays, ce ne sont plus les industries, ce sont les firmes qui s'ajustent. Donc, il y a une réallocation qui se fait au niveau des firmes. Okay? Puis on va voir, puis il y a plusieurs, on va voir toute l'évidence empirique qui est reliée à ça un peu plus tard. Okay? Donc, les firmes les plus productives vont exporter, vont croître, alors que les firmes les moins productives vont disparaître. Okay? Donc, ça a un effet positif sur la productivité et la compétitivité de cette industrie-là. En particulier. Okay? Là, vous allez me dire, oui, mais évidemment, ça amène des dislocations et des coûts qui sont associés. J'en conviens. Mais l'idée, c'est, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on peut démontrer qu'un accord de libre-échange, puis c'est la libéralisation des échanges, c'est pas un jeu à somme nulle. Si la libéralisation du commerce était un jeu à somme nulle, bon, il n'y a personne qui signerait des accords de libre-échange. Donc, c'est un jeu à somme positive. Donc, il y a des gains pour tout le monde. Et ces gains-là, ça devient des questions de politique domestique, à savoir comment on redistribue ces gains-là pour réduire les coûts et les frictions associées à la dislocation qui est associée, évidemment, à la réorganisation de l'économie. Okay? Donc, on parle de gains d'efficience, de gains en termes de variété. Puis là, je vais introduire ce qu'on appelle la marge extensive, donc, qui est un concept qui nous permet de mesurer la variété des biens disponibles. Mais dans tous les cas, peu importe qu'on parle de pays, qu'on parle d'industrie, qu'on parle de firmes, qu'on parle d'ajustement au sein des firmes, la libéralisation des échanges amène toujours la création de commerce. Donc, on va regarder effectivement s'il y a eu création de commerce. À l'époque, on parlait beaucoup d'économie d'échelle. On commençait à parler d'économie d'échelle. On se disait, si le Canada, on parlait du Canada comme étant une économie de branch plant, donc on avait des filiales américaines qui reproduisaient en plus petit les chaînes de production qu'on trouvait aux États-Unis. Okay? Donc, pas très efficace. Donc, on se disait, l'accord de libre-échange va nous permettre d'avoir accès à un plus grand marché. Donc, on va pouvoir, effectivement, bénéficier d'économies d'échelle. Donc, ça va. Puis, c'est essentiellement le mécanisme par lequel l'accord de libre-échange va se traduire par des bénéfices économiques pour le Canada. Et des gars comme Harris et Cox ont utilisaient des modèles d'équilibre général sophistiqués pour l'époque, mais qui sont de loin dépassés. Et on s'attendait à des gains équivalait à 3,1% en termes de bien-être ou en termes de PIB, bon, des accroissements de salaire réel de 5,5%, qui était relativement substantiel, mais on verra que, puis souvenez-vous du 3,1%, parce qu'on va y revenir à la fin en utilisant des instruments d'analyse un peu plus sophistiqués. Okay. Et le deuxième facteur qu'on cherchait, c'est évidemment d'augmenter notre productivité. Hein. Ça ne date pas d'hier que le Canada a un problème de productivité. Là, on l'avait à l'époque des années 80, à l'époque de la négociation des différents accords de libre-échange. OK, si on regarde les grandes tendances depuis ce temps-là, aucun doute que et l'accord bilatéral et l'ALENA ont été ce que j'appellerais des ententes séminaires. Okay? Donc, qui ont marqué, structurantes, qui ont marqué l'histoire économique et commerciale du Canada, OK? En termes économiques, mais aussi en termes de plateforme. Hein? Ces deux accords-là nous ont permis non seulement de développer une cohorte de négociateurs commerciaux. Hein? D'ailleurs, je fais souvent on a signé beaucoup d'accords de libre-échange et on en négocie en ce moment énormément aussi. Donc, la prochaine industrie de croissance pour les exportations canadiennes, ça va être la négociation des accords commerciaux. Mmh. Et donc, c'est ce que je dis, d'ici 2-3 ans, là, on a peut-être 125 négociateurs commerciaux au ministère qui ont une bonne expérience et qui, effectivement, vont être capables d'ici quelques années. Puis, ça va faire partie du commerce des services. Non, on est en train de développer un avantage comparatif dans la négociation d'accords commerciaux. Donc, évidemment, ça va nous servir plus tard au niveau des échanges commerciaux. Okay? Donc, depuis ce temps-là, on a signé Chili, Israël, Costa Rica, Pérou, EFTA, Jordanie, Panama. Il y a beaucoup de ces pays-là qui sont très petits. Okay? Mais ce qui n'empêche pas ces accords-là d'avoir des effets structurants restreints, okay? Mais néanmoins significatifs. Okay? 2014 va être une année marquante. Okay. Premièrement, on a conclu un accord de principe avec l'Europe. Ça va se finaliser au cours. On pense que ça peut prendre jusqu'à 18 à 24 mois avant de traduire l'accord de principe en texte juridique, de traduire ça en 28 langues, de le faire approuver par 28 parlements différents. Donc, soyez patients. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. On parle beaucoup du partenariat transpacifique qui va être un accord marquant, qui va être pour le 21e siècle, je dirais, ce que l'ALENA a été pour le 20e. Okay. En termes de plateforme de négociation et de modèle d'accord de libre-échange. Et évidemment, on est aussi en discussion avec la Corée, entre autres, on est assez avancé, mais aussi avec les Indes, on a des discussions avec la Chine, on a des discussions avec... si ma mémoire est bonne, vingtaine de partenaires différents, là, 23 partenaires différents de cette. Donc, c'est pour, si on le situe dans son contexte historique, ça a été un événement marquant, une nouvelle plateforme qui a été un modèle pour une série d'accords de libre-échange que le Canada a négocié par la suite et que d'autres pays ont négocié aussi par la suite. Ça a été le modèle d'entente de libre-échange du 20e siècle. Mais comme le titre de ma présentation le dit, essentiellement, c'est un accord du 20e siècle. C'est l'accord du siècle dernier, et non pas l'accord du siècle actuel. Donc, si on regarde juste les données essentiellement macroéconomiques, les grandes tendances en termes de commerce, aucun doute que si on regarde dans l'ensemble de notre commerce, et l'accord bilatéral et l'ALENA ont eu des impacts importants sur la croissance de nos exportations. OK, on le voit... qu'aller jusqu'à, à partir de fin des années 80, aller jusqu'aux années 2000, très forte croissance du commerce. Okay? C'est sûr qu'il y a toujours d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein? Mais comme les analyses qu'on fait vont effectivement évacuer les impacts des autres facteurs, pour l'instant, on se concentre juste pour avoir quels sont les grands paramètres, comment évoluent les grands paramètres. Donc, évidemment, on arrive à l'année 2000. Bon, c'est les événements du 11 septembre. C'est l'entrée de la Chine en particulier, mais de plusieurs pays émergents sur la scène internationale. C'est l'appréciation fulgurante de l'accord du taux de change canadien. Donc, des facteurs structurels qui, eux, ont dicté la conduite du commerce au cours de ces années-là. OK? L'accord de libre-échange, nous, on a comme règle de pouce. Un accord de libre-échange, ça prend une couple d'années à être négocié, ça prend un an ou deux à être finalisé. Avant d'être implanté, ça prend à peu près 5 ans pour l'implantation, l'élimination graduelle des tarifs et les différentes les engagements que contiennent l'accord. Et un autre 5 ans pour les impacts économiques à être réalisés au sein de l'économie. Donc, en dedans de 10 ans, là, le game est joué, si vous me permettez l'expression. Okay. Puis la règle de pouce, une étude de Banque mondiale qui demande en général les accords de libre-échange, après 10 ans, amène un doublement des exportations et des importations, donc du commerce mondial, grosso modo. Puis si on regarde ici, bon, mais c'est aussi au moins ce qu'on a connu, hein, si on part de 50, on se rend à 200. Donc effectivement, la croissance des exportations a été quand même significative. Si on regarde avec le Mexique, même chose, mais accélération des flux commerciaux. Okay, mais on verra que c'est au niveau du commerce des marchandises. Okay. Si on regarde au niveau des services, on ne s'attend pas surtout en ce qui concerne l'accord bilatéral et l'ANENA. La dimension service était nouvelle, mais pas très poussée. On avait certaines ententes au niveau de l'acceptation éventuelle des accréditations professionnelles, etc. Mais il n'y avait pas d'engagement très ferme, très contraignant au niveau des services. Donc, on ne s'attendait pas à une très forte croissance des services, mais néanmoins, les services ont continué de fortement augmenter. Mais ce qui est intéressant au niveau des services, c'est non pas le niveau, mais la structure. OK? Donc, si on regarde les différentes catégories, ce qu'on se rend compte en ce qui concerne le commerce bilatéral avec les États-Unis, c'est que ce sont ce qu'on appelle other services, mais essentiellement, c'est les services commerciaux et professionnels, qui sont en général les services les plus affectés par la libéralisation des commerces. Souvent, ces activités-là sont ancillaires au commerce international. On parle du commerce de gros, du commerce de détail, du transport, etc. Donc, ce sont souvent des demandes dérivées du commerce. Donc, pas de surprise à ce niveau-là, on s'attend effectivement que même un accord de nature plutôt traditionnelle comme l'ANA va avoir un impact surtout sur le commerce des biens, okay, mais quand même va avoir un impact plus ou moins indirect sur le commerce des services et des investissements. Si on regarde maintenant avec les importations, même chose. Puis là, n'oubliez pas, vous souvenez, l'accord bilatéral était un des premiers grands accords assez exhaustive entre deux pays développés. Okay. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait une croissance du commerce des services au niveau des services professionnels. Donc, ça, c'est pas une surprise. Vous allez voir que la structure est très différente en ce qui concerne le Mexique, parce que là, on a un pays qui est en développement à l'époque, okay, versus deux économies qui sont développées. Donc, encore là, Canada et États-Unis, qu'est-ce qu'on remarque? Other services, encore là, c'est services professionnels et commerciaux, demandes dérivées de essentiellement l'industrie ancillaire. Si on regarde avec le Mexique, OK, encore là, accélération au niveau des échanges commerciaux. On a même réussi à diminuer éventuellement là, notre déficit commercial avec le Mexique à ce niveau-là. Mais par contre, encore là, rien de marquant. C'est ce qui s'est passé au cours des dernières années qui est plus intéressant. Mais ça c'est une autre histoire. Okay. Si on regarde la structure, OK, bon, nos exportations vers le Mexique, qu'est-ce qu'on regarde? La forte croissance s'est faite au niveau des services commerciaux. Donc, porte surprise, un pays développé va avoir un avantage comparatif au niveau des services. Donc, on s'attend qu'avec la libéralisation des échanges causée par l'accord de libre-échange, à ce que les exportations de services de la part du pays développé vers le pays en voie de développement s'accentuent. Okay? Si on regarde au niveau du Mexique, les services commerciaux n'ont pas été affectés. Okay. Ce qui a été affecté, c'est le tourisme. Hein? De là à dire, je ne ferai pas un lien direct entre l'ALENA puis l'augmentation du tourisme canadien au Mexique, mais c'est essentiellement la croissance de l'importation de services de la part du Mexique est essentiellement associée au tourisme. Okay? Donc, encore là, c'est quelque chose que, grosso modo, la théorie nous permettait d'anticiper. Si on regarde encore là, on regarde rapidement le commerce bilatéral entre les États-Unis et le Mexique, encore là, on peut remarquer qu'il y a une accélération du commerce. Encore là, je regarde ça, moi, je regarde une échelle de 10 ans. Okay? Et après 10 ans, là, c'est d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et l'impact des accords de libre-échange ont été complètement intégrés au sein de l'économie. Après 10 ans, on passe à d'autres choses. Donc, c'est d'autres facteurs, le taux de change, la croissance économique, la compétitivité, la productivité, les autres accords de libre-échange qu'on signe. Là, il y a d'autres effets structurants. Okay? Mais après 10 ans, en général, règle de pouce, le processus d'ajustement est terminé. Au niveau des investissements, encore là, rapidement, on a maintenu, dans les années qui ont suivi, le Canada a maintenu sa part des investissements directs étrangers aux États-Unis. Donc, on a continué d'investir à peu près 8 % on a continué à représenter à peu près 8 % des investissements directs étrangers aux États-Unis dans les années qui ont suivi. En ce qui concerne la part des investissements directs américains au Canada, mais ça a chuté de à peu près 70 à 50 % au cours des années qui ont suivi. Mais encore là, c'est pas une surprise. C'est pas que le Canada a perdu son attrait. C'est que il y a eu beaucoup d'autres options. On parle de l'investissement direct étranger de la part des États-Unis dans le reste du monde a fortement augmenté. Et donc, il ne faut pas voir ça comme étant une baisse de. C'est une baisse de l'attrait relatif du Canada par rapport aux autres destinations possibles pour l'investissement direct. OK. Donc, ça, c'est les grands. Si on regarde les grandes tendances du commerce. OK, bilatéral et trilatéral. Donc, on peut dire que, à vue d'oiseau, là, essentiellement, si on regarde les grandes tendances, oui, ça a eu un impact positif. Bon, puis il y a une série, évidemment, il y a une série d'études empiriques qui ont démontré que ça avait eu un impact positif sur la croissance des flux commerciaux. Donc, c'est pas une surprise. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut le voir, sur la base des données générales. On n'a pas besoin de travailler à la loupe, de gratter profondément là, pour voir les effets. Bon, okay. Ça a l'air d'une toile d'araignée, mais essentiellement, ce qu'on veut savoir, quels ont été les impacts en termes de PIB, de bien-être et quels sont les autres types de gains. On a parlé, vous souviendrez, les différentes théories du commerce international depuis, des décennies, mais essentiellement, on parle de centenaires. OK? Parle de création de commerce et de diversion de commerce. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de phénomène de diversion de commerce entre le Canada lorsqu'on a signé l'accord bilatéral entre le Canada et les États-Unis. Essentiellement parce qu'on avait déjà à l'époque une relation très mature, très exhaustive, ce qui fait en sorte que. Et la distance et le degré d'intégration ont fait en sorte qu'il n'y a pas eu de diversion du commerce. La diversion du commerce, c'est essentiellement quand on signe un accord de libre-échange avec quelqu'un, qu'on augmente nos importations en provenance de ce pays-là d'un produit X, mais qu'on réduit nos importations du même produit X, mais de la part d'un tiers pays. Alors que le tiers pays, puis il y a deux types, ça c'est son vue traditionnelle, mais essentiellement un autre type un peu plus poussé de diversion du commerce, et que le tiers parti est plus efficace que le parti avec lequel on vient de signer une entente. Donc, en termes de bien-être, l'impact est négatif. OK? Je pourrais prendre le temps de vous l'expliquer, là, mais essentiellement, c'est pas. Vous voyez, si on a un tarif de 10 %, OK? C, produit à 10 $, OK? B, produit à 11 $. On a un tarif de 20 %. Donc, chacun nous coûte cher. Okay? Là, on importe surtout celui qui produit à 10 parce que ça nous coûte 12. On n'importe pas celui qui produit dont le coût de production est à 11 parce que ça nous coûte 13 à cause du. Sont à peu près à cause du, du tarif de 20 %. Si on élimine le tarif de 20 %, lui tombe à 11. Donc, on va acheter du pays avec lequel on vient de signer l'accord. Au lieu d'acheter de celui pour lequel le coût de production est de 10, okay? Donc qui est plus efficace. Donc, normalement, on devrait continuer d'importer. Okay? Donc, il y a une perte de bien-être parce que lui, il produit à 10, son coût de production est de 10, il nous coûte 12. Mais la différence entre le 10 et le 12, c'est le 20 % de tarif, mais ça, c'est un revenu qu'on nous offre. Donc, si on arrête d'acheter de lui puis on arrête de l'autre, on achète plus du pays avec lequel on vient de signer un accord de libre-échange, bien, on perd ce 2 $-là, si on veut, de revenus supplémentaires. OK? Puis on se trouve à acheter de quelqu'un qui est moins efficace, dont le coût de production est 10 % plus élevé. OK? Donc, c'est le phénomène de la diversion du commerce qui, dans certains cas, peut réduire très fortement les gains de bien-être associés à des accords de libre-échange. OK. Donc, après ça, on parle de type de gains d'efficience. OK? Là, les gains d'efficience, selon la théorie traditionnelle, on les retrouve au niveau de l'allocation. L'allocation des ressources. Donc, c'est au sein de l'industrie. Au sein d'une industrie, puis parfois, entre les industries. OK? Après ça, on parle au sein de l'industrie, entre les firmes. OK? Donc, des firmes qui disparaissent, des firmes qui croissent. OK? Par la suite, on parle de gains d'efficience au niveau de la production. Ça, c'est à l'intérieur des firmes. OK? Et on va voir qu'il y a beaucoup d'évidence qui démontre que les firmes qui exportent sont beaucoup plus productives. OK? Innovent beaucoup plus. Payent des salaires beaucoup plus élevés. OK? Donc, c'est des formes, essentiellement, ce sont des gains qui reviennent à ces firmes-là en raison de l'accès au marché international. Okay? Et par la suite, on parle de gains d'efficience au niveau de l'organisation. Ça, c'est essentiellement une question d'intégration verticale. On verra qu'il y en a eu un peu de ça suite à l'accord de libre-échange, mais c'est un phénomène qui s'est dissipé rapidement par la suite parce que il y avait trop de tentations ailleurs, ça. Okay. Et finalement, un concept plutôt récent, des gains en variété. Okay. Puis ça, l'accès à une plus grande variété de biens a des impacts importants sur le bien-être. Okay. Ça nous permet, bon, on parle souvent, la couleur des bas, les modèles de dos, les pâtes à terre, peu importe. Prenez l'exemple que vous voulez. Mais évidemment, il y a une limite à ça. Okay. C'est mieux d'avoir 10 sortes de pâtes à dents qu'une, OK? Mais les gains de bien-être associés à la 99e sorte de pâtes à dents, plutôt faible, OK? Donc, il y a quand même une limite là, aux gains de variété. Si on mesure ça en termes de marge intensive et de marge extensive, on y reviendra un peu plus tard. Évidemment, il y a eu une série d'analyses de nature plus ou moins qualitative qui ont suivi l'accord de libre-échange. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. OK, donc, il y en a qui, essentiellement, qui parlaient de l'accroissement du commerce. On l'a vu tout à l'heure, l'accroissement des flux commerciaux suite à la signature de ces deux accords-là ne fait aucun doute. On le voit à vue d'oiseau, donc on le voit encore plus dans nos études économétriques. C'est marquant. Plusieurs études qui ont conclu que c'est effectivement le Mexique qui a bénéficié le plus de l'accord de libre-échange. Okay. Plusieurs études qui démontrent que ça a eu un impact important sur l'investissement direct étranger au sein de la zone nord-américaine. Et évidemment que ça a eu un impact sur le commerce des produits intermédiaires. Okay. Donc, toutes ces analyses-là ont été faites de nature plutôt qualitative. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous, là, c'est de se tourner plus vers les études de nature empirique, là, ce qu'on appelle heavy lifting. Là, hein, donc quand tu joues avec des grosses bases de données, avec des modèles plus ou moins complexes, etc., qui nous permettent d'évacuer tout ce qui s'est passé ailleurs dans l'économie pour pouvoir focusser sur, comme on dit en économie, hein, qu'intéresse paribus, focusser sur l'impact des accords de libre-échange. Donc, en ce qui concerne la création de commerce, bon, Clausing a trouvé qu'il n'y avait pas eu de diversion de commerce dans le cadre de l'ALENA, surtout dans le cadre de l'accord bilatéral entre le Canada et les États-Unis. Ce qu'on a trouvé, c'est que ça avait eu un impact très important sur les flux d'importation. Et, bon, on a calculé ici, puis je faisais le calcul hier dans ma tête, ça représente une élasticité. Bon, quand on parle, bon, 10 % de quoi? Une baisse de 10 % dans les tarifs américains entraîner une croissance de 1 % une expansion de 1 % des importations canadiennes, des importations en provenance du Canada. Puis là, bon, je faisais le calcul. Si à l'époque, bon, le tarif moyen entre le Canada et les États-Unis était de 7 %, 10 % de ça, c'est 0,7, ça augmente de 1 %. Donc, ça nous donne l'élasticité des exportations par rapport au prix, qui est à peu près de 1,5 à 2. C'est raisonnable. C'est à peu près ce qu'on trouve. Là, nous, on utilise un modèle d'économie mondiale pour simuler les accords de libre-échange que le Canada signe, pour simuler des accords comme le TPP, l'accord avec l'Europe, etc. Puis les élasticités là, qu'on retrouve dans notre modèle se situent à peu près dans à cette échelle-là. Donc, c'est raisonnable et cohérent avec ce qu'on sait depuis. Okay? Ce qui est qui est intéressant, par exemple, c'est de dire, OK, mais là, on mentionnait tout à l'heure, oui, ça a eu des impacts au cours des années qui ont suivi sur les flux commerciaux. OK. Par contre, lorsqu'on regarde les flux globaux, on a et les biens qui étaient sujets à tarif et les biens qui n'étaient pas sujets à tarif. Parce qu'il y avait quand même une grande partie du commerce le canado-américain ou trilatéral qui n'était pas sujet à des barrières tarifaires à l'époque. Okay? On parle des ressources naturelles. Bon, ça a toujours été... Le commerce est toujours fait là, sans présence de barrières tarifaires. Okay? Les barrières tarifaires se trouvaient surtout au niveau du secteur manufacturier. Okay? Donc, ça... Il y a un impact important au niveau des données agrégées. On a vu une accélération des flux commerciaux. Après ça, ça s'est stabilisé en raison d'un paquet d'autres facteurs. Mais il faut pousser l'analyse plus loin. Quel a été l'impact sur les biens en général, l'ensemble des flux commerciaux, mais diviser ça par la suite en deux sous-groupes. Quels sont les biens qui n'étaient pas sujets à barrière tarifaire et quel a été la progression des biens qui étaient sujets à barrières tarifaires et pour lesquels les barrières tarifaires ont été éliminées. Donc, c'est ce qu'on sépare. Donc, on regarde ici les lignes jaunes. La ligne jaune ici et la ligne verte ici représentent les produits qui étaient sujets à des barrières tarifaires avant la signature des accords de libre-échange. Et ça, on remarque que l'importance de ces biens-là dans le commerce global a continué d'augmenter. Okay. Alors que pour les biens qui n'étaient pas sujets à des barrières tarifaires lors de la signature des ententes de libre-échange, leur part de marché a continué de baisser. Okay. Donc, ce qui m'amène à dire une chance qu'on a signé ces accords de libre-échange-là, qui nous ont permis de développer des avantages comparatifs et d'accroître notre présence sur ces marchés-là. Okay? Parce que, essentiellement, ces produits-là sont encore sujets à des barrières tarifaires qui auraient baissé en raison des accords multilatéraux, mais qu'il y aurait quand même des barrières tarifaires qui seraient présentes. Donc, c'est une bonne chose qu'on ait permis aux producteurs canadiens de pouvoir développer des niches dans ces secteurs-là, qui leur ont permis de connaître une certaine croissance. Okay? Donc, création de commerce. Au niveau global, mais surtout création de commerce au niveau des biens pour lesquels on a fait disparaître les barrières tarifaires. Okay? Donc, en termes d'efficience, okay, différentes composantes des gains d'efficience, et que nous dit l'analyse empirique sur les gains des entreprises? Okay? Bon, Mellitz est très fleur, puis Mellitz, c'est un des grands penseurs modernes de la théorie du commerce international. C'est lui qui a introduit, qui a formalisé, si on veut, l'analyse de l'hétérogénéité des firmes en commerce international. Okay. Lui a fait une étude avec Treffler, qui probablement est le plus grand penseur canadien en termes de politique commerciale. Eux ont comparé la distribution des firmes en termes de productivité. Okay. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis avait entraîné un changement dans la distribution des firmes. Donc, on s'est retrouvé avec, bon, le médian est plus faible, mais on s'est retrouvé avec beaucoup moins de firmes qui produisaient moins, qui étaient moins productives que la moyenne, et beaucoup plus de firmes qui sont devenues beaucoup plus productives. Donc, l'impact sur la distribution des firmes en termes de productivité a été très marquant. Okay? Donc, qui démontre qu'effectivement, on a connu des gains d'efficience et de productivité très importants. Et le phénomène, et comment ça se fait, et comment, en partie, c'est mesuré, on compare deux distributions. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais entre-temps, les usines ou les firmes qui étaient les moins productives ont disparu. Ils ont rapetissé ou ils ont disparu parce qu'ils n'étaient pas compétitifs. Alors que celles qui étaient les firmes les plus productives ont exporté ou ont été capables d'accroître leurs exportations. Donc, on peut bénéficier de gains d'échelle, d'économies d'échelle, de gains de spécialisation, de gains d'efficience à l'intérieur de l'entreprise, etc., etc. Okay? Et pourquoi ces entreprises-là peuvent croître? Bon, ben, on va le voir un peu plus tard, mais c'est parce que ces entreprises-là sont sujets à une plus grande concurrence, d'une part, et d'autre part, ils vont innover davantage. Ils vont investir davantage en recherche et en développement. Ils vont innover davantage. Ils vont être capables de développer des nouveaux biens, réduire leur structure de production, augmenter les salaires. Et effectivement, toutes les études empiriques démontrent que dans les firmes et dans les secteurs où, effectivement, on a connu une forte expansion du commerce, le salaire réel a fortement augmenté, tel qu'anticipé par Harris et l'objet. Sauf que les mécanismes, on a une vision, une compréhension beaucoup plus granulaire aujourd'hui des ajustements au sein de l'économie. Puis on a les données. C'est pas juste une question de conceptualisation, c'est une question de données. On a maintenant accès à des données sur des dizaines de milliers d'entreprises, OK? Et on a leur revenu, on a leur productivité, on a les emplois, on a les salaires moyens, on a le degré moyen de scolarité, on a les exportations par pays, par type de produit, on a leur revenu, on a leur profit, etc., etc. Donc, on est capable de regarder comment les firmes s'ajustent suite à un choc exogène quelconque, comme un accord de libre-échange, OK? Puis c'est encore là, c'est ce que, si on parle, bon, je n'ai pas sauté une, là. Donc, encore là, Treffler, puis Leviva et Treffler, plus tard, en utilisant encore là, là, des millions d'observations de firmes et comment les firmes se sont ajustées, ont trouvé qu'effectivement, bon, les ajustements se font au niveau de la réallocation, on l'a parlé un peu tout à l'heure, la réallocation des firmes à l'intérieur d'un secteur d'une part, après ça, des gains d'efficience à l'intérieur de la firme et des changements organisationnels. OK? Donc, on mesure ça. Et on trouvait qu'effectivement, la croissance des usines ou des firmes les plus productives a fait en sorte de faire grimper la productivité du secteur manufacturier de 4,1%. Okay? La contraction ou la sortie des firmes les moins productives ont permis d'augmenter la productivité de 4,3% dans le secteur manufacturier. Okay? Si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la firme, okay, bien là, on se rend compte que l'investissement accru des firmes exportatrices a entraîné une croissance de 3,5% de la productivité pour l'ensemble du secteur manufacturier. OK? Alors que celles qui sortent, celles qui ont été affectées, OK, doivent également, pour maintenir, doivent également augmenter leur productivité. Bon, 1,4, accès à des produits intermédiaires, 0,5, ce qui fait que, selon lui, l'accord de libre-échange a entraîné une croissance de 13,8% de la productivité dans le secteur manufacturier. OK? Puis je pense que, bon, il y a d'autres études qui regardent ça, puis c'est comme on dit, c'est dans le ballpark. OK? Donc, ça nous apparaît très raisonnable. Auparavant, il avait fait une autre étude utilisant les mêmes banques de données où on regardait quel était l'impact. Il avait divisé le secteur manufacturier en trois. Okay? Ceux qui étaient affectés par l'accord de libre-échange, ceux qui n'étaient pas. Les exportateurs, okay? Donc, si on veut, les secteurs canadiens qui étaient affectés dans le secteur de la compétition par rapport aux importations, okay? Donc, qui étaient affectés par la baisse des tarifs, okay? Eux ont été capables d'augmenter leur productivité en raison d'une concurrence beaucoup plus élevée. Ça a fait en sorte qu'ils ont accru leur productivité de 15%. En ce qui concerne l'impact sur les industries exportatrices, là aussi, ça a entraîné une croissance de 14% de la productivité. OK, donc, ils parlaient d'un impact total associé à ça de 7,4%. Cette étude-là a été faite avant l'autre. OK, mais c'est encore là, Baldwin, John Baldwin de StatsCan, qui a fait plusieurs études, lui aussi, sur l'impact des accords de libre-échange sur la productivité et la distribution des firmes au Canada. OK, eux aussi ont trouvé l'évidence empirique marquée à l'effet que les accords de libre-échange vont entraîner une croissance là, significative de la productivité. OK? Au niveau des impacts à l'intérieur de la firme, OK, je vais passer vite, mais encore là, John Baldwin, Ngu, Treffler, Leviva, etc., qui ont regardé ça, ont trouvé que, effectivement, les firmes qui exportaient innovaient davantage. Okay? Il y avait un phénomène d'apprentissage par l'exportation. On innovait davantage, on investissait davantage, ce qui fait en sorte qu'on adoptait des technologies beaucoup plus modernes, okay? On dit en raison de la pression concurrentielle, ce qui fait en sorte que ces entreprises-là devenaient beaucoup plus soutenable à long terme, okay? Et bénéficiait de croissance de la productivité, croissance des revenus, baisse des coûts, etc. Donc, il y avait des bénéfices importants au niveau de la firme comme telle. Okay? On parlait de changement organisationnel, c'est... M. Gagné, vous parliez tout à l'heure de l'intégration verticale, OK? On a effectivement évidence que, suite à l'accord de libre-échange, OK, il y a eu une augmentation des transactions intra-firmes, OK? Donc, entre entre filiales américaines et canadiennes, mais c'est un phénomène qui s'est rapidement estompé, et par la suite, évidemment, parce que il y avait trop d'opportunités ailleurs, donc c'est pas un phénomène auquel on s'attendait à ce qu'il soit maintenu. Okay. Donc, un effet à court terme sur le degré de vente à l'intérieur des firmes, de transactions à l'intérieur des firmes, mais c'est un effet qui s'est estompé. Ah, mais ça, c'est toute une autre présentation, mais effectivement, tout derrière la toile de fond, derrière tout ça, il y a un processus de fragmentation, okay, des chaînes de production qui fait en sorte que les avantages comparatifs sont déterminés à des niveaux beaucoup plus désagrégés. La technologie fait en sorte qu'on peut gérer des usines à distance, essentiellement. Mais on fait en sorte que les produits sont de plus en plus sophistiqués. Donc, quelqu'un qui produit une petite composante insignifiante peut être situé à l'autre bout du monde. Okay? Donc, tout ce phénomène-là là, de restructuration de la structure de production mondiale qui se passe derrière ça. Donc, c'est pas facile à éliminer. OK, au niveau de la variété des gains, okay, on se rend compte... Bon, Canada et États-Unis, deux pays développés qui avaient une grande historique de relations commerciales, on transigeait, bon, on exportait vers les États-Unis 5500 produits différents. OK, 24 ans après, on exporte essentiellement le même nombre de produits. Là-dessus, évidemment, ça a changé. Il y a 337 nouveaux types de produits qu'on exporte aux États-Unis. Même chose au niveau des importations. Les importations, les chiffres sont plus gros parce que c'est au niveau HS10, comme on dit, alors que les exportations sont au niveau HS8, peu importe. Okay? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau du Mexique. Regardez la multiplication au niveau de la variété des produits exportés et importés en ce qui concerne le Mexique. Donc, on est passé au niveau de nos importations en provenance du Mexique de 2500 biens différents à 6600. Là-dessus, il y avait 4729 nouveaux types de biens. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle essentiellement la marge extensive. Donc, la libéralisation du commerce nous permet d'avoir accès à une beaucoup plus grande variété de biens des services qui, effectivement, ont des gains, génèrent des gains de bien-être au sein de l'économie. Okay? Bon, encore d'autres auteurs qui ont trouvé des résultats différents. Ça, essentiellement, ça, c'est des mesures de la marge extensive. Okay? Donc, on est à... ça, c'est le nombre de biens que le Canada exporte vers les États-Unis par rapport au nombre de biens que le reste du monde exporte vers les États-Unis. Donc, il y a un chevauchement extraordinaire. Donc, on exporte aux États-Unis. Le Canada exporte aux États-Unis un nombre de biens qui est quasiment aussi important que l'ensemble des biens importés aux États-Unis. Donc, on a une relation qui est très exhaustive. OK? Si on regarde au niveau de la marge intensive, OK? Donc, ça, c'est la quantité de biens, OK? L'intensité des relations commerciales dans les différents secteurs pour lesquels on transige déjà, OK? Pour lesquels pour lesquels ce ne sont pas des nouveaux biens, donc pour lesquels on transige déjà. Croissance pour les années qui ont suivi. OK, on parle des 10 ans qui ont suivi. On parlait d'une échelle temporelle de 10 ans. Et baisse par la suite. OK, bon, ça, c'est la Chine, c'est le taux de change, c'est un paquet d'autres facteurs. C'est intéressant au niveau du Mexique, cependant, on remarque que, en termes d'extensive margin, okay, de marge extensive, la multiplication des biens a été fulgurante, comme on l'a vu. Et donc, on parle d'une marge extensive qui part de 0.5 à 0.8, donc qui est fortement accrue. Même chose au niveau de l'intensité. Okay. Croissance de l'intensité au niveau des importations, au niveau des exportations vers le Mexique, c'est plutôt stable. Okay. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une forte multiplication des biens transigés. Ce qu'on a fait, nous, je vous mentionnais tout à l'heure, on a le modèle GTAP qu'on utilise, qui est un modèle d'économie mondiale avec 50 secteurs, etc., qu'on utilise pour faire l'évaluation des différents accords de libre-échange. OK? J'ai besoin de trois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Habituellement, c'est des analyses qu'on fait ex ante. On prend l'économie mondiale, OK, ou on prend l'économie du Canada, on lui donne un choc, puis on part d'un état stationnaire à un autre état stationnaire, grosso modo, 10 ans plus tard, puis on regarde les différences entre les deux. Ce qu'on a fait, c'est un peu l'inverse. On a pris l'économie canadienne d'aujourd'hui et on a réintroduit les barrières tarifaires qui ont été éliminées par l'accord bilatéral et par l'ALENA. Okay? Et on obtient un gain de, en termes de PIB de 3,4%. Donc, pas mal. Relativement près du 3,1% de Harris et Cox que je vous avais présenté, au début. Okay? Ça, on parle de... c'est l'équivalent d'un bénéfice de 64 milliards de dollars pour l'économie canadienne. Okay? Donc, on parle de CETA qui générerait l'équivalent de 12 milliards de dollars de bénéfices. On parle de la Corée ou des Indes qui bénéficiaient, pour lesquels on parle de 5-6 milliards de dollars. Donc, il n'y a aucun doute que l'accord de libre-échange avait un impact majeur sur la performance de l'économie canadienne. Le futur, OK? Et comme je le disais dans le titre, c'est l'accord du siècle dernier, OK? Pour bien les raisons. Par contre, qu'est-ce qu'on s'attend au niveau de l'espace économique nord-américain? Bon, on peut dire que c'est effectivement, ça a été et c'est toujours un bloc commercial régional qui a connu un grand succès. Okay? Donc, c'est un modèle, si on veut, jusqu'à un certain point, là, de bloc régional commercial. C'est de plus en plus, avec la fragmentation des processus de production, etc., okay? Une plateforme de production conjointe. Okay? Puis c'est là que rentrent les chaînes de valeur ajoutée. De plus en plus, on fait des choses ensemble. Okay? Mais il y a un risque avec la multiplication des accords de libre-échange qu'on est en train de signer, que les Américains sont en train de signer, que les Mexicains sont en train de signer, qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle en commerce international un bol de spaghettis en ce qui concerne les règles d'origine. Et donc, ça, dans un monde où, avec de fragmentation de la production, de l'importance croissante des chaînes de valeur ajoutée, que ça rende la tâche d'intégration de nos économies très difficile. Parce que là, bon, OK, c'est 20% là, c'est 30% là, 50 là, 62,5 là. Donc, les règles de l'origine viennent trop compliquées. Puis ça, c'est un problème majeur au niveau administratif pour les petites et moyennes entreprises. Hein? GM et Ford, c'est pas un problème. Hein? Ils ont une équipe qui s'occupe de ça, puis sur le piton, essentiellement. Puis ils ont la valeur régionale, la valeur ajoutée régionale de tous leurs produits, c'est pas un problème. Ils peuvent rencontrer les exigences de l'agence frontalière. Okay? Mais pour les petites et moyennes entreprises, c'est une autre histoire. OK. Pourquoi je dis que c'est un peu passé, l'accord de libre-échange? Bien, premièrement, parce que des ajustements ont été réalisés en dedans des 10 premières années. Donc, on a passé à d'autres choses. OK? Maintenant, on a besoin de d'autres outils, comme le Conseil sur la coopération réglementaire pour le commerce des services, pour faciliter l'intégration des chaînes de valeur ajoutée, etc. L'accord est au-delà de la frontière pour faciliter, augmenter la fluidité à la frontière. OK, depuis ce temps-là, évidemment, le protectionnisme américain a joué un rôle important, il joue encore un rôle important. Les Américains vont toujours demeurer protectionnistes. La plus grosse économie mondiale, puis quand j'en discutais avec un d'entre vous auparavant, les Américains ont cette conception qu'ils ont toujours été les meilleurs et les plus productifs. OK? Donc, par définition, si tu arrives avec un produit similaire, de meilleure qualité et ou moins cher, ils vont dire « c'est pas possible, c'est parce que tu es subventionné ». Donc, ils vont vouloir intenter des poursuites commerciales. OK? C'est dans leur ADN. Donc, il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec ça. OK, bon, évidemment, les fluctuations du taux de change qui ont dominé le débat. Bon, les mesures de sécurité imposées à la frontière qui ont réduit fortement la fluidité à la frontière. OK? C'est, aujourd'hui, il y a au-dessus de 350 accords commerciaux régionaux, okay? dont l'ALENA n'est qu'un. OK? Donc, c'est... l'espace de jeu, c'est fortement en commun. Forte augmentation du commerce nord-sud, sud-sud. OK? Donc, ça aussi, ça change la dynamique. Et évidemment, les négociations actuelles du partenariat trans-pacifique qui va changer les règles du jeu et qui va dicter la conduite essentiellement au niveau des flux commerciaux entre, d'une part, l'Asie et, d'autre part, les Amériques. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans notre futur? Bon, Nous, on fait des simulations à long terme de l'importance des États-Unis. Les Américains, le marché américain va continuer d'être la destination d'à peu près 70 à 75 % de nos exportations au cours des 25 prochaines années. Okay? On a beau diversifier nos marchés, on a beau faire des efforts considérables, l'attraction naturelle du marché américain ne peut pas être renversée à court terme. Okay? Donc, les États-Unis vont demeurer et de loin notre principal partenaire commercial. Ça peut baisser, évidemment, ça peut baisser à 65, 60, évidemment, mais peu importe. Les États-Unis vont toujours être de loin notre principal partenaire commercial. Le TPP, l'accord, le partenariat transpacifique, va créer une nouvelle plateforme. Non seulement ça va dicter les règles de conduite de plus en plus entre l'Asie et les Amériques, mais ça va être une nouvelle plateforme de négociation. On va loin au-delà. L'élimination des tarifs, ça, c'est de la petite bière. Ça, c'est le siècle dernier. Là, on parle des tarifs, on parle de l'investissement, on parle de la protection de la propriété intellectuelle, on parle des achats, des achats gouvernementaux, des achats publics, etc. Donc, le TPP va être un modèle, va être une plateforme pour ce nouveau modèle d'accord de libre-échange, OK, pour le prochain siècle. De plus en plus, on oublie les biens. Les mécanismes du marché, les firmes savent très bien s'organiser avec le commerce des biens. Okay? Le focus de la politique publique est de plus en plus vers les services et vers la mobilité des facteurs. Mobilité de la main-d'œuvre, mobilité et protection du capital. Et essentiellement, je vous parlais de cette toile de fond qui est là depuis plusieurs 20 ans, une vingtaine d'années, ce processus de fragmentation de la production, okay, qui fait en sorte que de plus en plus, les avantages comparatifs vont être déterminés à un niveau très désagrégé, très, très granulaire, OK? Et qu'évidemment, ça va nous prendre des politiques publiques qui sont capables de faire face à des défis qui sont de plus en plus granulaires, OK? Donc, des grandes politiques cadres, oui, mais de plus en plus, pour ce qui est du soutien de la politique commerciale et du commerce, ça va nous prendre des politiques de plus en plus micro, de plus en plus ciblées, qui correspondent à cette granularisation, si on veut, des avantages comparatifs. Merci.